En cas de chute de François Bayrou, Nicolas Sarkozy pense, lui, que cette dissolution est la seule solution. L'ex-président le dit dans une interview au journal Le Figaro. Il y aura sans doute un nouveau procès pour Gérard Depardieu, cette fois pour viol. L'acteur a été renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour l'agression de la comédienne Charlotte Arnoux. Il peut encore faire appel de l'ordonnance de renvoi signée par la juge d'instruction. Mathilde Lemaire, Gérald Depardieu pourrait revenir devant la justice 6 mois après avoir été condamné en correctionnel.
Oui, voilà, en mars dernier, c'était un procès pour agression sexuelle sur le tournage des Volets Verts. Gérard Depardieu avait été écopé de 18 mois de prison avec sursis et d'une amende avant de faire appel. Cette fois, c'est le dossier des 2 viols dénoncés par la jeune comédienne Charlotte Arnoux, qui avait 22 ans les 7 et 13 août 2018, quand elle s'était rendue chez l'acteur à Paris, dans le 6e arrondissement, pour des rendez-vous qu'elle souhaitait professionnels. Gérard Depardieu avait, lui, alors 69 ans. Le juge d'instruction, dans son ordonnance, évoque plusieurs pénétrations digitales des viols, donc, pour lesquelles il retient la contrainte morale et précise que la victime était alors en état de sidération. L'ordonnance s'appuie sur les images de vidéosurveillance à l'intérieur du domicile de l'acteur. Le juge d'instruction retient aussi les réactions immédiates de Charlotte Arnoux, qui, rapidement, à l'époque, s'était confiée à son entourage, notamment à sa mère, et s'était rendue chez un gynécologue. Karine Durieux-Diebold, l'avocate de la jeune femme, se dit aujourd'hui extrêmement satisfaite et parle de moments de vérité judiciaire dans cette affaire. 7 ans après les faits, 7 ans aussi après la première plainte qui avait été classée sans suite.
Mathilde Lemaire, merci. 5 blessés, dont un grave aujourd'hui à Marseille dans une attaque au couteau. Un homme de nationalité tunisienne a agressé plusieurs personnes dans un hôtel dont il avait été expulsé. Il s'en est pris notamment au gérant de l'établissement. L'homme a ensuite tenté d'attaquer d'autres personnes sur le cours Belzunce. Les policiers l'ont abattu alors qu'il refusait de se rendre. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. L'été 2025, marqué par 2 canicules et le 3e plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des relevés en 1900, une température moyenne de 22,2 degrés, soit un excédent de 1,9 degré par rapport au normal de saison. Seuls les étés 2003 et 2022 ont été plus chauds. 19h03 sur France Culture, question du soir, deuxième partie avec vous bien sûr, Quentin Lafay.
Merci beaucoup Stanislas Vazak et Lumière, dans un instant sur une discipline et son histoire. L'EPS est-elle une discipline comme les autres ?
France Culture, question du soir, Quentin Lafay.
En cette rentrée, des tests physiques devraient être proposés à l'ensemble des élèves entrant en 6e par leur professeur d'EPS afin d'évaluer leur endurance et leur rapidité. Une promesse qu'avait émise Emmanuel Macron dans la perspective des Jeux Olympiques 2024. Plus largement, le gouvernement affiche aujourd'hui sa volonté de faire du sport un pilier de l'école. Mais sur le terrain, les enseignants dénoncent des équipements vétustes, l'absence de piscine pour un élève sur 7 et des moyens qui ne suivent pas. Héritière d'une longue histoire entre gymnastique militaire, hygiénisme et ouverture culturelle, l'EPS demeure fragile et souvent réduite à du sport. Alors, l'éducation physique et sportive est-elle vraiment une discipline comme les autres ? Pour tenter d'y répondre, Sarah Pochon, bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Et merci à vous d'être ici. Vous êtes enseignante chercheuse, maître de conférences en STAPS à l'université d'Artois, membre du laboratoire UREPS de Lille. Vous travaillez sur l'EPS, la question des inégalités dans le sport, la formation des enseignants d'éducation physique. Merci à vous d'être présente ce soir dans Question du soir. Et je le disais, Sarah Pochon, en cette rentrée, des évaluations seront proposées, ce ne sera pas obligatoire, à tous les élèves de 6e pour tester leur capacité physique. Pourquoi faire ?
Alors, c'est une bonne question, puisque évidemment, là, les 3 tests qui sont proposés vont évaluer l'endurance des élèves sur un parcours en aller-retour où il s'agit de courir le plus longtemps possible. Un test qui va évaluer la force des élèves sur un saut en longueur. Et puis, enfin, un test qui va évaluer la vitesse des élèves. Alors, j'avais publié en effet une tribune qui interrogeait l'usage qui sera fait de ces tests, puisqu'on nous dit l'intérêt de ces tests, c'est d'établir un état des lieux, de faire une photographie des capacités physiques des élèves. Donc, en ce sens, c'est vrai que c'est intéressant, même si Évidemment, les évaluations diagnostiques sont déjà réalisées par les enseignants d'EPS. C'est-à-dire, pour être concrète, que lorsqu'on démarre un cycle d'EPS ou une séquence d'enseignement, les enseignants dressent un état des lieux. C'est-à-dire, on essaie de savoir quels sont les besoins des élèves en termes d'apprentissage. Où est-ce qu'on veut les emmener, avec en perspective, évidemment, les programmes. Donc, la première question que je posais, c'était quel usage ? Est-ce que c'est simplement alimenter cette machine à statistiques, puisqu'il n'est pas question de reproduire sur la suite du parcours de formation ces tests. La deuxième chose, et je rejoins un petit peu Bernard Lahire qui était hier sur...
Au matin de France Culture, voilà, sur France de Guillaume Erner.
Et qui dénonçait un petit peu cette logique évaluative où on cherche encore à classer les élèves dans cette logique normative. Donc, je le disais, l'évaluation fait partie des pratiques enseignantes. Qu'est-ce qu'on va faire avec un élève de 6e qui découvre un nouvel endroit, avec un élève qui est plutôt éloigné des pratiques sportives et qui va se retrouver confronté à une performance à produire sous les yeux des autres ? Est-ce que ça ne va pas plutôt être stigmatisant pour ces élèves qui ont déjà des difficultés dans le rapport à l'effort ?
Moi, je vais me faire, pardonnez-moi, je vais me faire l'avocat de vos opposants. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, dans le fond, peut-être aussi de récolter des données, d'objectiver la façon dont des jeunes en sixième abordent les questions sportives, la relation à leur corps, même s'entraînent peut-être de manière sportive. Est-ce que cela, pour une scientifique, ce n'est pas aussi positif ?
Alors, c'est positif, mais dans la mesure où c'est déjà réalisé par des enquêtes. On pourrait citer les enquêtes de l'INJEP, de l'ONAPS, les enquêtes sociologiques. J'ai plein de doctorants au sein de mon laboratoire qui mènent des enquêtes.
Justement. Tout cela existe déjà.
Voilà. Par contre, c'est vrai que je ne voudrais pas qu'on pense que je suis contre le développement des qualités physiques, puisque la dimension centrale de l'éducation physique et sportive, c'est la dimension corporelle. C'est le fait de faire vivre aux élèves des sensations, de faire vivre aux élèves des émotions. Mais travailler, développer des qualités physiques, ça va de pair avec le développement de la motricité. Si je ne développe pas mes qualités de souplesse, de coordination, d'endurance, de force, forcément, je ne vais pas développer mes capacités à développer une motricité expressive en danse, à développer une activité de pivoter, de m'horizontaliser en natation, par exemple. Donc, je ne remets pas du tout en cause le développement des capacités physiques et des qualités physiques.
La voix de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne.
La pratique du sport à l'école, et on en a beaucoup parlé l'an dernier avec les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très bénéfique pour lutter contre la sédentarité. Ce qu'on constate, c'est que les élèves qui ont des bons résultats en sport ont aussi des meilleurs résultats au plan scolaire. Les tests, c'est des tests d'endurance, de rapidité, donc c'est des tests de base. D'accord. Et en tout cas, ça permet de situer le niveau des élèves, leurs éventuelles difficultés, et de mieux les accompagner.
Elisabeth Borne nous dit, Sarah Pochon constate que les élèves qui ont de bons résultats en sport ont aussi de meilleurs résultats sur le plan scolaire. Est-ce que, j'allais dire, les bons résultats en sport entraînent de bons résultats scolaires, ou c'est simplement que celles et ceux qui ont déjà de bons résultats scolaires ont par ailleurs de bons résultats en sport ?
Alors, auparavant, j'aimerais bien relever que Madame Borne emploie le mot sport, et ça engendre toujours cette confusion entre le sport et l'éducation physique et sportive. Donc il a été démontré par ailleurs dans des études qu'effectivement plus on va avoir une activité physique, plus on va se tourner vers l'extérieur, plus on va améliorer les capacités de mémorisation, de concentration, plus on va améliorer ses résultats scolaires. Donc ça ça a été démontré. Mais dans ce qui est proposé dans les dispositifs, là, si je prends par exemple les 2 heures de sport en plus les 2 heures en plus pour les élèves volontaires au collège, c'est un dispositif qui n'a rien à voir avec l'éducation physique et sportive. C'est un dispositif qui était censé être déployé sur l'ensemble des collèges cette année. Finalement, ça a été réduit puisque, vous le disiez, en fait, le but de ce dispositif, c'était de toucher les élèves qui sont le plus éloignés des pratiques sportives. Puisqu'il y a des inégalités, il y a une réalité sociale en France aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a plus de 50% des élèves pour lesquels la seule pratique, c'est la seule pratique sportive et artistique, n'oublions pas les pratiques artistiques, c'est l'éducation physique et sportive. Donc ce dispositif des deux heures là n'est pas proposé, n'est pas encadré par les enseignants d'EPS et il a du mal en plus à trouver son public et à être, il est véritablement complexe à mettre en place. D'autre part, les 30 minutes d'activité physique par jour proposées à l'école primaire, c'est la même chose. On peut se demander concrètement ce qui est proposé. Alors je vais pas dire ce qui est important, c'est évidemment l'activité physique des élèves, mais derrière il faut des enjeux d'apprentissage, puisque les enjeux c'est quand même que les élèves prennent du plaisir, perçoivent des sensations positives pour pouvoir pérenniser leur pratique, pour être encouragés ensuite à aller pratiquer de la danse ou continuer chez eux à pratiquer une activité autonome.
Étiez embêtée, Sarah Pochon, par le fait qu'Elisabeth Borne emploie le terme de sport plutôt que d'éducation physique et sportive. L'EPS, au regard de l'histoire, a toujours été une discipline au sein de l'éducation nationale qui a eu du mal à trouver sa place, pour laquelle la légitimité n'allait pas de soi. À quel point, justement, quand on fait l'histoire de cette discipline, cela a été compliqué de s'affirmer au milieu d'autres disciplines plus légitimes.
Alors, vaste question qui pourrait être posée dans le cadre de l'écrien au concours des futurs enseignants de PS. Et je tiens à préciser que je ne suis pas historienne de l'éducation physique et sportive. Je sais que mes collègues historiens et historiennes vont accueillir avec bienveillance ma démarche. On a navigué. On n'a pas toujours été à l'éducation nationale. On a navigué entre plusieurs ministères, ministère de la guerre, de l'instruction publique, de la jeunesse et des sports. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué au développement de l'identité de l'EPS. Donc, c'est vrai qu'on a souvent été confondus avec le sport, notamment dans les années 60, avec ce qu'on a appelé la sportivisation de l'éducation physique et sportive. Et on était alors, à ce moment-là, sous l'égide du ministère de la jeunesse et des sports. On est toujours un petit peu confondu, malheureusement, dans les discours politiques, puisque à partir de 1981, nous sommes rentrés à l'éducation nationale, enfin la discipline, hein, j'ai toujours cet esprit de corps un petit peu marqué, mais l'éducation physique et sportive rentre en 81 à l'éducation nationale, et là c'est une vraie reconnaissance symbolique, statutaire, puisque là on va être doté de programmes d'enseignement, d'horaires, d'évaluation, donc on va être il y aura un certain homomorphisme scolaire.
Mais même si on remonte plus loin encore, la marque du militaire, la marque de l'hygiénisme à la fin du 19e siècle dans la façon d'aborder le sport à l'école, à quel point c'est resté une marque compliquée justement, une marque dont il fallait se départir pendant longtemps?
Oui, bah alors c'est vrai que la discipline a été traversée voilà, par des mutations, des bouleversements. Donc, fin du 19e, c'est vrai qu'au sortir des guerres napoléoniennes, les pratiques, c'était plutôt la gymnastique. La gymnastique qui a été rendue obligatoire ensuite. Donc, en termes de pratiques, support d'enseignement, les élèves pratiquaient des gymnastiques suédoises, différents types de gymnastique, avec des enjeux qui relevaient plutôt de discipliner les corps, discipliner la morale des élèves. Aujourd'hui, on est totalement éloigné de ces enjeux, puisque comme je le disais à l'instant, nous sommes rentrés à l'éducation nationale en 81, donc on poursuit des enjeux qui sont contemporains, où on s'adresse à tous les élèves dans leur singularité. On vise une éducation des élèves qui se situe sur tous les pôles. On a parlé du pôle corporel, mais aussi émotionnel, du pôle plutôt social, puisque comme les élèves pratiquent sous les yeux des autres, avec les autres, ils vont aussi développer leur capacité de coopération, de dialogue, d'écoute, de tolérance, de citoyenneté, de fraternité. Donc, on s'est éloigné progressivement, avec un jeu d'acteurs, avec des évolutions dans les programmes, de cette gymnastique et de ces enjeux très hygiénistes et militaires, comme vous le disiez.
Je vais vous faire revenir un peu en arrière une nouvelle fois avec, à travers la voix de Maurice Herzog, qui était haut-commissaire à la jeunesse et au sport. C'était en 1960.
Il est certain que la France est sous-équipée au point de vue sportif. Nous avons 20 ans de retard en matière de stade, en matière de gymnase, en matière de piscine. Une piscine dans notre pays est encore une exception. Dans d'autres pays, elle est la règle. Eh bien, il faut absolument que nous fassions un effort considérable en matière d'équipement sportif. Et c'est pourquoi, voyez-vous, un malheur est peut-être qu'à parfois du bon. Si à ces Jeux Olympiques, nous enregistrons une défaite cuisante et cruelle, croyez-le bien, eh bien, nous devons en tirer la conclusion et le gouvernement doit comprendre qu'un programme d'équipement sportif doit être établi et réalisé au plus vite.
Dans les années 60, Sarah Pochon, le PS, le sport à l'école, cela servait aussi à identifier, à repérer les futurs champions, celles et ceux qui devaient porter les couleurs nationales à l'international, justement.
Oui, alors là, 1960, c'est vraiment la débâcle, comme on vient de l'entendre à l'écoute des archives voilà, que vous avez choisies. Donc, la débâcle avec aucune médaille d'or aux Jeux Olympiques, ça a entraîné une politique sportive et une vision assez élitiste, en effet, de la politique sportive avec, là, c'est le renforcement du sport à l'école et puis là, le développement des pratiques sportives du sport en EPS. Il y a aussi d'autres conjonctions, évidemment. C'est aussi le développement du sport au sein de la société, donc avec l'héritage aussi du Front populaire où les Français vont pouvoir s'adonner à beaucoup plus de loisirs. Donc il y a comme ça en face de cette volonté d'aller chercher des champions, de fabriquer des futurs champions, des contre-courants qui vont faire du sport, la possibilité d'éduquer, de faire du sport avec une visée très éducative. Donc il y a quand même des différents courants qui s'affrontent. Ce qui est intéressant de dire à nouveau, c'est que voilà, sous Maurice Herzog, on est sous le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et cette confusion, elle persiste encore aujourd'hui, puisque voilà, à l'aune des Jeux Olympiques de Paris 2024, ou même auparavant avec les Jeux Olympiques de Tokyo, on a encore entendu Jean-Michel Blanquer qui disait, qui remerciait les enseignants d'EPS pour avoir fabriqué des champions. Donc on est totalement éloigné aujourd'hui de cette conception-là élitiste, puisque l'héritage des JO, c'est quand même ces émotions collectives et cette dimension un petit peu sensible qui traverse l'EPS. Elle est importante. C'est intéressant de dire que effectivement, on vit des émotions collectives, on est fier de gagner, on va vivre les mêmes choses dans les pratiques sportives et artistiques en EPS, mais la figure iconique, la figure héroïque du champion va pas convenir à tous les élèves, forcément. Donc, voilà, on s'éloigne, et c'est là un petit peu, je reviens sur ce que je disais au départ, sport EPS, c'est là où la profession milite encore et essaie de faire en sorte que le grand public comprenne que nous, on ne forme pas des champions, on est sur des enjeux vraiment qui dépassent la compétition, la performance. On fait d'autres choses, on vise d'autres enjeux.
Sur la profession, un mot, Sarah Pochon. Est-ce que la profession parvient aujourd'hui à attirer de nouveaux talents, de nouveaux enseignants, de nombreux professeurs, autant qu'il le faudrait, ou bien la discipline connaît, comme d'autres disciplines, une crise des vocations importante?
Alors, j'ai fait ma rentrée ce matin avec les étudiants à l'Université d'Artois qui se destinent au professorat d'EPS. Et nous avons la chance, nous, de ne pas être une discipline qui est sous tension. C'est vrai que les postes de... Il y a plus de postes proposés au concours au CAPES de mathématiques de français que de candidats. Nous avons la chance d'avoir, pour donner des chiffres, 5000 candidats. Pour l'année dernière, c'était 670 postes. Donc, on a les candidats, mais en revanche, on n'a pas les postes qui vont avec, si je puis dire. Donc, ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a quand même des paradoxes assez frappants dans les discours des politiques qui veulent mettre en avant l'activité physique, le sport, comme ils le disent, en tout cas l'éducation physique et sportive. Mais à côté, on n'a pas d'augmentation des postes. On va recruter des contractuels. Il y a quand même des élèves qui ne vont pas avoir d'enseignants d'EPS devant eux, là, à la rentrée. Donc, on a une baisse depuis 2018 de 21% de ces chiffres, de 21% des postes offerts au concours. Donc, ça révèle aussi des paradoxes entre l'affichage politique, les discours et puis les réalités scolaires.
Il y a souvent cette fausse idée selon laquelle le sport nous mettrait toutes et tous à égalité. Et pourtant, on voit bien qu'en matière d'EPS, les inégalités sont vives, elles perdurent. Expliquez-nous comment elles se manifestent, Sarah Pochon.
Alors, effectivement, en éducation, de manière générale, il a été démontré dans les travaux en sociologie de l'éducation, si je prends Marie Durubella, qu'il existait des différences entre les contextes. Donc, dans le cadre de mon travail de doctoral, j'ai étudié des contextes d'enseignement très différents. Je suis allée enseigner l'EPS mis en œuvre dans un lycée ultra favorisé de Paris.
Et j'ai parlé du lycée Henri IV.
Voilà, pour ne pas le nommer. Et donc, et j'ai mené une comparaison par les contraires en essayant d'observer dans la littérature ce qui se faisait dans ce qu'on appelle des établissements vulnérables. Donc, en étudiant la sociologie des élèves, qui va impacter les pratiques d'enseignement, en étudiant la sociologie des enseignants, mmh. qui va forcément impacter les manières aussi d'enseigner, en étudiant le poids du contexte, donc la géographie scolaire, le bâti, les équipements vétustes ou non, eh bien, on observe effectivement des différences selon les contextes. Donc, pour aller très vite, dans les établissements dits favorisés, on a des leçons de PS qui vont très vite, puisque les élèves exercent leur métier d'élève, comme on dit. Donc, on peut passer d'une situation à une autre, on enchaîne des contenus. Dans des établissements dits vulnérables, ça prend un petit peu plus de temps, puisqu'il faut réunir les élèves plusieurs fois, peut-être parfois réexpliquer les consignes. Quand j'ai observé les leçons au lycée Henri IV, c'est vrai que les enseignants, en acrosport, donner une consigne avec, par exemple, vous faites des figures en duo, en trio, en quatuor, la consigne est écrite nulle part. Vous avez 10 minutes, les élèves font, pratiquent, et puis on passe ensuite à d'autres exigences et d'autres consignes. Donc, le tempo de la leçon est différent. Il y a ensuite, on pourrait quand même parler de similitudes. C'est vrai que dans les milieux dits populaires, on a plutôt une hétérogénéité corporelle, une diversité d'élèves sur le plan sociologique mais aussi corporel. Dans les lycées plutôt favorisés, on a une homogénéité comportementale, on est plutôt il y a un recrutement qui est homogène par le haut sur le plan social, donc ça va engendrer un mimétisme aussi dans les façons de faire, d'apprendre, d'être ensemble.
Vous parliez de géographie scolaire, à quel point justement cette géographie-là joue sur les inégalités? Est-ce que parfois le fait d'avoir des établissements dans des espaces ruraux, à la montagne, où l'accès au plein air et donc au sport est plus facile, est-ce que cela va venir corriger en partie ces inégalités ou bien tout au contraire?
Alors là, j'ai pas véritablement de réponse à apporter. Je pense que tous les contextes effectivement sont différents et vont impacter la manière d'enseigner, les choix en termes d'APSA proposés. Ce qui est intéressant, c'est de noter que même sur les pratiques qui sont proposées, en tout cas à l'extérieur de l'établissement et sur les pratiques faites par les élèves, on constate ce qu'on appelle une omnivorité culturelle des élèves. Donc les élèves des milieux favorisés vont pouvoir cumuler des activités, donc de plein air, des activités artistiques qui vont leur permettre d'être en réussite. Donc il y a aussi cette géographie scolaire où je vais pouvoir profiter des espaces extérieurs, de la nature, etc. Et pour les élèves plutôt issus de milieux populaires, on est plutôt sur des élèves qui sont éloignés des pratiques fédérales et puis des pratiques autonomes.
Vous avez examiné, étudié un autre terrain, la Finlande, dans son rapport au sport au sein de l'éducation nationale, l'EPS. Qu'est-ce qui est différent dans leur façon d'approcher justement le sport à l'école? Comment est-ce que l'on pourrait synthétiser cette différente approche?
Alors, il y a plusieurs éléments, bien sûr. Hein, on tient compte du... Je ne vais pas dire qu'il faut copier et juxtaposer forcément et absolument les pratiques de nos collègues scandinaves, parce qu'il y a une réalité géographique, démographique, politique, sociale qui est complètement différente. Malgré tout, on peut quand même observer notre voisin nordique et constater que... les transports actifs sont valorisés. Les élèves viennent en vélo, à trottinette, en ski, même à ski lorsqu'il neige. On limite le temps passé assis. Ça veut dire qu'au bout d'une heure, si les élèves ont été assis une heure, il y a une activité physique qui est proposée. Depuis 2012, il existe dans les écoles primaires le programme Finnish Schools on Move, dont s'est sans doute inspiré le dispositif 30 minutes d'activité physique par jour. Mais ce dispositif ne se limite pas seulement à bouger. Il y a quand même des enjeux d'apprentissage. Donc, concrètement, le mobilier au sein des écoles a été revu pour proposer un mobilier ergonomique où les élèves ne sont pas toujours assis, peuvent être debout, semi-assis. Les cours de récréation ont été repensés pour favoriser la pratique sportive, l'activité physique. Et puis, quelque chose qui est quand même intéressant de noter, ce sont les horaires d'éducation physique sur l'école primaire et secondaire. Nous, en primaire, on est à 3 heures normalement par semaine. Je dis bien normalement parce qu'on sait que dans les faits, les 3 heures ne sont pas réalisées. En 6e, en France, un élève doit suivre 4 heures d'EPS. Et puis ensuite, 5e, 4e, c'est 3 heures. Si on regarde la Finlande, c'est quand même fou, c'est que de 7 à 9 ans, les élèves ont 4 heures d'EPS par semaine. Plus on avance dans la scolarité en primaire, de 9 ans à 12 ans, les élèves ont 9 heures d'EPS par semaine. Donc là, je pense que certains enseignants d'EPS viennent de tomber de leur chaise. Ça augmente. Ensuite, 7 heures. Et puis, par contre, au lycée, ça diminue. On est à 36 heures annuelles. Donc, ça fait à peu près 1 à 2 heures par semaine. Donc, on peut se dire qu'en fait, on met le paquet avant pour développer un mode de vie actif où les élèves vont apprendre à pérenniser leur pratique, prendre du plaisir dans la pratique et être éduqué véritablement corporellement pour continuer de pratiquer en dehors de l'école.
Au-delà des moyens dont on a compris que c'était une question fondamentale pour rendre effectives les ambitions affichées par le gouvernement, au-delà de ça tout de même, que faut-il changer plus philosophiquement dans l'approche, dans notre approche, dans notre façon d'aborder l'éducation physique et sportive ?
Alors, je pense que je serais bien présomptueux si j'avais toutes les solutions.
Pas toutes les solutions, mais vous avez commencé à travailler sur le sujet pour nous donner quelques indices.
Mais je pense que, oui, penser sur le plan philosophique à cette dimension corporelle des élèves qui est connectée au développement émotionnel des élèves, au développement aussi de leur créativité, puisque je le redis, c'est parce que j'y tiens beaucoup. En EPS, on pratique aussi des activités artistiques, comme le cirque, la danse. Donc, c'est avoir sortir de cette dualité corps-esprit et avoir cette dimension globale, holistique de l'élève qui est épanoui dans les pratiques en EPS, sur le plan, donc on l'a dit, de la motricité, mais aussi des sensations, de son rapport à l'environnement. Et c'est cette dimension que les politiques, en tout cas, ont tendance à oublier dans leur façon de voir l'EPS. Peut-être qu'ils ont encore cette vision assez réductrice de la discipline et ne voient que l'activité physique.
Alors, c'est faire du sport, au fond, un autre vecteur, un vecteur supplémentaire d'émancipation à l'école ?
Oui, c'est ça. Donc, l'EPS est déjà un vecteur d'émancipation totale, équilibrée des élèves, puisqu'elle s'adresse à tous les pôles de l'activité, moteur, émotionnel, corporel, sur le plan des sensations. Donc elle l'est déjà, il ne faut pas oublier qu'elle est essentielle dans le parcours de formation de chacun des élèves.
Merci beaucoup Sarah Pochon d'être venue au micro de France Culture ce soir. Vous êtes enseignante-chercheuse, maître de conférence en STAPS à l'université d'Artois, membre du laboratoire UREPS, il y a 3 S, pourquoi
oui,
3 S?
Exactement, sport, santé, société.
Et voilà les 3 S de Lille, vous travaillez sur l'EPS, on l'a entendu, sur la question des inégalités dans le sport, la formation des enseignants d'éducation physique. Merci d'être venue dans cette seconde partie de Questions du Soir.